Il est possible que les opinions présentées dans ce programme ne réfléchissent pas les opinions de l'Université du Connecticut, la radio WHES ou le personnel de la station. J'étais en train d'étudier il y a quelques semaines en écrivant une épreuve à rendre le lendemain. Lorsque j'ai finalement levé les yeux, j'ai éthéré, vérifié mon téléphone. J'étais confrontée à la tension, à l'inconnu, à la peur gelée de la notification suivante.
Alerte, Yukon. Notification de la police, Stars. La police enquête sur une plainte à O'Call. Évitez la zone de O'Call. Ceux qui sont situés à l'intérieur de O'Call sont invités à l'abri en place. Allez à alerte.yukon.edu.
La peur se glisse dans ma poitrine et serpente autour de mon cœur. Je suis paralysée. J'ai peur de bouger et de voir le monde se briser dans mille éclats de verre, la réflexion des lumières de police et les sirènes et les caméras. La couverture médiatique et l'analyse sans fin des nouvelles et les foules en larmes faisant le deuil de la prochaine tragédie dans la liste que nous utilisons comme panneau indicateur. Est-ce que cela va devenir une autre? Où étiez-vous quand? Est-ce que cela sera une autre raison pour le visage tragique? La grimace douloureuse et affligée que les gens ne peuvent s'empêcher de faire en sorte que je suis de Sandy Hook. Oui, celle-là. Celui où le mec a tiré sur et a tué 20 élèves dans leur salle de classe de cours préparatoire. Est-ce que ce sera un jour où un lieu sera transformé en événement? Et pendant toute cette crise émotionnelle, je suis en retard pour un rendez-vous et le trajet le plus rapide est de passer par O'Call. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent en disant « éviter la zone d'O'Call » Heureusement, ce n'était rien cette fois-ci. Mais tellement de froid auparavant, c'était quelque chose. Le 7 janvier 2015, je suis à Paris avec deux amis, dans un café au centre-ville. On se parle, on rit, on discute des activités qu'on voulait faire avant de rentrer aux États-Unis. On entend une sirène de police. Puis une autre. Puis d'autres. Mais nous n'avons pas de portable français et ce n'est que à 16h41 qu'on a une idée des événements de la journée.
Hey, ça va? Est-ce que tu t'es trépidant maintenant?
En quelques minutes seulement, ce mercredi 7 janvier, la France a connu le plus grave attentat sur son sol depuis une cinquantaine d'années. Vers 11h20, à Paris, au 10 rue Nicolas Appert, deux hommes cagoulés pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Ils font feu sur le chargé de l'accueil et se rendent au deuxième étage alors que se tient la conférence de rédaction hebdomadaire du journal. Ils achèvent froidement les personnes rassemblées, expliquera plus tard un policier. Cette fusillade dure peut-être 5 minutes. 11 personnes y trouvent la mort, une seule personne, qui a réussi à se cacher sous une table, en réchappe. Vers 11h30, les premiers véhicules de police arrivent sur place. Depuis le toit d'un immeuble proche, des témoins filment la sortie de deux hommes, vêtus de noir et armés de fusils d'assaut. Une voiture de police bloque leur sortie mais ils ouvrent le feu et forcent le passage. Quelques instants plus tard, engagés sur le boulevard Richard Lenoir, ils ouvrent à nouveau le feu sur un policier et prennent le temps de descendre de leur véhicule pour achever l'homme à terre avant de reprendre leur route en lançant à nouveau « On a vengé le prophète Mohamed ». Les hommes fuient en direction du nord de Paris et abandonnent très vite leur véhicule près de la porte de Pantin pour en prendre un autre. Pendant ce temps, les secours évacuent les victimes de l'attaque. On dénombre 12 morts, 8 blessés, dont 4 dans un état critique.
Et les gens tournent vers les autorités pour trouver la rassurance.
Peu avant 13h, François Hollande prend la parole devant les journalistes nombreux aux portes du journal.
La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat. Terroriste, ça ne fait pas de doute. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient. c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale.
Pendant ce temps, la recherche des terroristes se poursuit avec d'importants moyens policiers.
Pour l'instant, ces deux hommes, bien sûr, sont la priorité au niveau national et sont très activement recherchés par tous les services de police.
À la suite de cet attentat, les gens de Paris, de France, du monde se réunissent. Il y a des manifestations, des chefs d'État reliés les bras dans les rues, tous déclarant « Je suis Charlie, nous sommes Charlie ». Les panneaux apparaissent dans la nuit dans les vitrines. Je suis Charlie.
Nous vivons sous une menace terroriste majeure. Et cette menace terroriste, elle va durer. Et nous devons savoir que nous devons combattre et que nous allons combattre dans la durée ce terrorisme qui ne concerne pas uniquement la France, qui concerne d'autres pays d'Europe et qui concerne le monde, puisque ces organisations terroristes veulent combattre nos valeurs, non pas les valeurs de l'Occident, mais les valeurs humanistes, les valeurs qui sont universelles.
Il y a d'innombrables nouvelles. Qui l'a fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à chaque instant? Quelles sont les ramifications globales? Et il y a les présentateurs qui demandent ce que tout le monde veut savoir.
Que s'est-il passé ce jour-là? Le 7 janvier, vous étiez, je crois, avec les autres autour de la table de la conférence de rédaction. Que s'est-il passé?
On discutait de choses et d'autres comme dans n'importe quelle conférence de rédaction. Et puis soudain, on a entendu une détonation qui nous a un peu intrigués. Moi, j'ai cru personnellement que c'était un objet ménager qui était défectueux. Et puis deux autres détonations qui, là, nous ont semblé très suspectes puisque tout le monde s'est levé d'un seul coup. Et on a compris que quelque chose d'anormal était en train de se passer. Et à cet instant-là, la porte de la salle de rédac s'est ouverte et j'ai vu, enfin de là où j'étais, j'ai vu un homme armé et cagoulé surgir avec une mitraillette. Et pour ma part, à cet instant-là, je me suis jeté au sol, face contre terre.
Et lentement, tout doucement, la vie revient à normal. Les panneaux disparaissent, les fleurs dans les rues sont nettoyées, le fil d'actualité de Facebook revient à son équilibre narcissistique. Dix mois plus tard, le 13 novembre, recommence la même couverture de nouvelles dont nous sommes tous devenus si familiers.
Quatre hommes, parmi les huit au moins, qui sont passés à l'attaque.
Première détonation retentie.
Trois kamikazes.
Ils viennent de faire sauter leur ceinture d'explosifs.
Un faux passeport syrien.
Dans Paris intramuros cette fois. Les forces de sécurité sont partout, les policiers d'une nervosité extrême. Le cauchemar de cette soirée.
À Cambrai, ils sont contrôlés par des gendarmes.
Une seconde explosion.
Deux Français résidant en Belgique.
Rue de la Fontaine au Roi. Dans le 11e arrondissement tout proche, rue de Charonne.
Le groupe État islamique. Commis le massacre.
Une vise un restaurant asiatique.
Ils arrivent en face de la salle de spectacle. Une deuxième équipe sème la terreur depuis une demi-heure dans les 10e et 11e arrondissements de Paris.
Au cours de ces attentats coordonnés, le chef de l'État fait une déclaration télévisée solennelle et émue.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne.
Lorsque la poussière se retombe, les attaquants sont identifiés, une chasse à l'homme commence, les terroristes flottent, l'état d'urgence est déclaré. Une autre série de témoignages et adresses de chefs d'État.
En fait, au final, je sortais juste de la fac, j'allais rejoindre ma mère pour aller boire un verre au baromètre, le café qui était juste à côté, là où on a passé la nuit. Et en fait, il était complètement plein. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, on va au Bataclan. Et elle m'a dit, mais non, t'inquiète, on va y aller, on va trouver une place. Et en fait, on a fait deux pas après le Bataclan et ça a commencé à tirer. Donc elle me dit, mais non, c'est juste des pétards. Je lui dis, non, ça c'est vraiment des coups de feu, on est loin des pétards. Et là, on voit tout le monde, on voit les gens affluer depuis le Bataclan, courir vers. Juste courir, en fait, ils savaient même pas, je crois, eux-mêmes où ils allaient.
On est tous sortis de cuisine, on a tout débarrassé, on a dit aux clients d'attendre 30 secondes pour manger. On a tout rangé les tables et les chaises, et puis on leur a laissé de la place pour leur donner ce qu'ils nous ont demandé, un peu d'eau.
Ça commence en se disant, ah ben on est vendredi 13, qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin voilà, les petites blagounettes entre nous. Et là, j'entends hurler, ça tire sur le 10e arrondissement. Et tout de suite, je dis à mes gars, ben on y va. Le 10e, c'est à côté de chez nous, mais sans penser, absolument sans penser, que c'est un attentat.
Moi, j'habitais dans la banlieue et en fait, avec ma coloc, on avait décidé de se faire une soirée film où enfin, on n'est pas sortis. Et à un moment donné, ma sœur a commencé à m'envoyer des messages en me disant « Où t'es ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, j'étais là « mais oui, ça va, je suis chez moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, c'est là qu'elle m'a dit on a mis la télé, on a regardé et tout.
Puis ensuite, il y a une femme qui a froid et qui demande un pull. Ce à quoi l'assaillant répond en lui lançant un pull. Et j'ai demandé, puisque moi j'avais froid aussi, si je pouvais mettre ma chemise. Donc à la manière d'un professeur un peu sévère, il m'a dit que je commençais à l'énerver. Donc voilà, il y a eu une sorte d'échange quand même.
Tout le personnel du bar a été génial, ils nous ont dit vous inquiétez pas, ça va aller, ils se sont occupés de nous. Ils nous ont dit ok, tout le monde reste à terre, allez dans la cuisine derrière, ils nous ont cachés. La propriétaire donc, du bar nous a emmenés chez elle là-haut pour nous cacher aussi. Enfin, vraiment, on était plus en sécurité dans le bar que dehors, en fait.
Enfin, j'étais à Paris, je fêtais l'anniversaire de ma meilleure amie dans le quartier de la République, donc à côté. Et je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens juste qu'on a été enfermés dans un bar quelque temps. Et après, on a été enfermés dans un bar. Après, je suis rentrée chez moi et puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Et voilà, c'était la chute.
J'ai 15 secondes de... Enfin, peut-être même pas 15 secondes, 5 secondes de mise en veille de mon cerveau. Et là, je regarde mon chauffeur et le collègue avec qui j'étais, qui conduisait la voiture. Et je lui dis, il y a des blessés. Et là, c'est là qu'il me répond, mais arrête, ils sont tous morts.
Tous ces gens en choc, en essayant de faire du sens des événements, du bouleversement extrême.
De raconter cette scène d'horreur en elle-même, je peux pas. Je pourrai jamais, je le raconterai jamais, ni à vous, ni à personne.
J'ai beaucoup lutté avec cette histoire, de trouver le point à retenir et la conclusion à tirer et créer une très vraie moment où vous êtes hypnotisé et confronté à la vérité. Mais peut-être qu'il n'existe pas un point concret de toutes ces tragédies, toutes ces crises. Peut-être nous sommes simplement des gens qui tentent de comprendre les actes insensés. Faire du sens des coups de feu et du carnage et du sang, la perturbation de la vie quotidienne par les attentats et la façon dont elle change notre existence.
Et après, c'était... Est-ce que la vie normale a changé ou pas?
La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de prendre le train et rentrer dans ma campagne natale parce que je me sentais d'une certaine manière plus en sécurité là-bas. Moi, je me souviens que la chose qui m'a choquée, c'était qu'à la gare, j'avais jamais vu autant de militaires, en fait. Mais genre vraiment, c'était, y avait une foule de militaires. Et j'ai pris mon train, en gros, j'ai pris mon train en espérant qu'il allait pas exploser sur les rails. Mais bon, c'était, ouais.
Ouais, moi, j'ai passé, après les attentats du 13 novembre, j'ai passé une bonne semaine à être complètement paranoïaque à chaque fois que je prenais le métro et tout, puis au bout d'un moment je me suis dit non mais enfin je peux pas vivre comme ça quoi, faut que la vie redevienne normale quoi, c'est pas possible.
Ce quartier est où ce matin de nombreux anonymes affluent avec des fleurs à la main. Une dame me disait notamment être venue pour montrer qu'il fallait garder la tête haute et que personne ici n'avait peur de ces terroristes.
Sauf peut-être que la vie ne change pas.
Est-ce que vous avez changé votre mode de vie à cause des...
Non, moi, bon, je veux peut-être un peu moins dans la foule, ça c'est évident, mais le week-end dernier, j'ai pris le train, je suis allé voir mon fils à Grenoble, je continue à aller au concert, on va au concert dans 3 semaines, avec 4000 personnes, non, on sera fouillé à l'entrée, mais... On préfère être fouillé par mesure de sécurité et tout le monde, je veux dire, tout le monde acquiesce, tout le monde est content de voir un système de sécurité de policiers autour, autour d'eux. Même si les gens sont fouillés, les gens demandent pas mieux. Quoi. Voilà.
Si on commence à dire oui, j'ai peur, eh ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Si on veut instituer en France un délit de blasphème, on met la clé sous la porte et puis on change de pays.
Et pourtant, même si nous ne le remarquons pas, même si nous ne pensons pas avoir changé, nous en tant que société, nous sommes quand même confrontés à des questions massives, questions de sécurité, d'identité, des communautés. Et c'est ça le sujet de cet épisode, comment digérer la tragédie.
La question pour commencer, la France a-t-elle réellement changé depuis les attentats ? La peur dans laquelle vivent les Français n'est-elle pas délibérément entretenue par les politiques à des fins électoralistes ? L'état d'urgence est-il encore utile ?
Comment mieux protéger les citoyens ? Quelles mesures ?
Et le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le plan Vigipirate attentat. C'est-à-dire que des forces de sécurité vont être déployées partout, là où il peut y avoir le début d'une menace. Enfin, nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité de tous nos concitoyens face à cette épreuve. Rien ne peut nous diviser. Rien ne doit nous opposer, rien ne doit nous séparer.
Le terrorisme est une stratégie dans une guerre d'idéologie. Il vise à bouleverser la vie quotidienne, à frapper la peur dans le cœur de ses adversaires. Diviser et séparer est beaucoup plus facile que l'unité. Mais nous devons nous demander, comment maintenir la vie normale quand nous vivons devant la menace terroriste? Surtout, quand pour certains, les jeunes, le terrorisme est normal. Voici Najat Vallaud-Belkacem, le ministre de l'Éducation nationale, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en août 2016.
Naturellement, nous prenons soin aussi de préparer nos élèves, notamment pour l'application des plans prioritaires de mise en sûreté de chaque établissement, afin que ces derniers se fassent dans les meilleures conditions possibles. Les établissements restants le feront à leur tour très prochainement. Dans le cadre de ces plans prioritaires de mise en sûreté, nous avons demandé à ce que 3 exercices soient réalisés dans tous les établissements au cours de l'année scolaire. Parmi ces exercices apparaît désormais l'exercice attentat-intrusion.
En France, la rentrée est un moment partagé entre tous. C'est le jour de l'école où près de 12,4 millions d'élèves et plus de 800 000 professeurs rentrent à l'école, dans les centres-villes, dans les banlieues, dans les campagnes. C'est un jour dont on se souvient comme symbole de l'enfance et de la jeunesse. On pense à la continuité de cette tradition de la rentrée en France. Les parents et les grands-parents se rappellent des mémoires de l'école.
Et je me souvenais que j'avais toujours mis beaucoup d'enthousiasme à reprendre le chemin de l'école. Et en même temps, je pense comme n'importe quel élève, quelques inquiétudes, quelques appréhensions, des rêves étranges, des cauchemars, l'éveil de rentrée scolaire. Et je me souviens en particulier cauchemardant que j'arrivais à l'école en pyjama parce que j'avais oublié de m'habiller, ou encore que j'arrivais et qu'on était cueillis immédiatement par une interro surprise. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait ces rêves.
Mais maintenant, on sait que l'école est une cible, surtout dans les pays les plus ciblés par le terrorisme. Au Pakistan et en Afghanistan, au Nigeria avec l'enlèvement des lycéens par Boko Haram, et en France avec l'attentat contre l'école juive au Tzer HaTorah. Nos rêves étranges et nos cauchemars sont plus sombres qu'avant. Et alors, on s'adapte.
Ces élèves, il faut vraiment se mettre un instant à leur place. Ils sont dans une situation que aucune des générations précédentes n'avait connue.
La menace terroriste, je veux le redire ici, pèse depuis de longs mois sur l'ensemble du pays. Elle est complexe, cette menace. Elle est diffuse. Elle vient de l'extérieur tout autant que de notre propre pays. Elle a étendu ses cibles à notre société tout entière de manière indiscriminée, comme les événements qui viennent de se produire récemment en témoignent s'il en était besoin. L'école n'échappe pas à ce contexte de menace globale et il nous revient avec lucidité, mais aussi avec sang-froid, en maîtrise, d'en prendre la mesure et d'apporter collectivement les dispositions préventives appropriées.
Nous devons en prendre soin. Nous devons la faire évoluer quand ça s'impose, non pas pour le plaisir de changer, mais pour, au contraire, rester fidèles aux missions qui sont les siennes, faire des citoyens éclairés, éduqués, instruits, autonomes, dans le monde qui est le leur. Nous devons toujours la respecter, cette école, la défendre, parce que l'école est un enjeu qui nous concerne tous, en tant que société, en tant que république, en tant que pays. J'ai parlé de défendre l'école. C'est un mot qui prend dans le contexte actuel un écho tout particulier, vous le savez. Nous sommes menacés, bien sûr.
La sécurité des élèves et des personnels éducatifs constitue en effet une priorité absolue, non seulement pour nous prémunir contre le risque d'une attaque, mais aussi pour garantir l'atmosphère de sérénité que requiert l'acquisition et la transmission des savoirs.
Que penser des exercices attentat-intrusion dans les écoles maternelles et primaires ? Ne sont-ils pas plus anxiogènes qu'utiles ? Sophie Peters, tous les parents là, qui nous regardent, les grands-parents, effectivement, se sont sûrement posé cette question.
Si, je pense que ça crée un climat anxiogène pour les enfants, de la même façon qu'il est préférable de ne pas mettre des images et que les enfants soient pas, qu'on leur explique avec des mots tels qu'ils sont, terrorisme, attentat, mort, ce qui se passe, c'est une chose et c'est très important de ne pas essayer, voilà, de les duper sur le contenu et sur la façon dont on le dit. Par contre, tout ce qui est image, tout ce qui est vécu, mettre dans les expériences, ça c'est traumatisant pour eux.
Les professeurs ne savent non plus les réponses à ces questions inquiétantes. Les adultes s'inquiètent de ce qu'il faut dire aux enfants. Comment protéger les élèves? Comment enseigner des valeurs importantes afin que les enfants d'aujourd'hui puissent grandir librement et améliorer le monde?
Ouais, moi, je me rappelle le lundi quand je suis retournée en cours. Tous les profs nous en ont parlé. On avait des séminaires de 2 heures et plus de la moitié du cours, à chaque fois, toute la journée, ça a été... discuter des attentats, enfin la moitié de mes profs ont pleuré, c'était vraiment, les gens étaient vraiment très touchés,
ouais.
Mais enfin ça m'a rappelé les attentats de Charlie Hebdo, je sais pas, enfin moi je me rappelle tous mes profs ils ont pleuré aussi en prépa, ils étaient, enfin ils pouvaient même pas en parler parce qu'ils étaient trop.
À la suite de Sandy Hook, j'ai eu exactement la même expérience que celle de Pauline. Ma sœur et moi sommes retournées à l'école après un long week-end passé à regarder le rouleau bai de notre ville natale. Les champs où nous allions au camp d'été et nous apprenions à jouer au football, les façades de notre école primaire, notre collège, notre lycée, les images de nos policiers portant des écussons de l'image du mat qui se trouve au milieu de la rue principale. Ce dont je me souviens le plus, c'est le silence. Ils ne sont pas les cloches entre les classes, donc nous avons trébuché de salle de classe en salle de classe d'un enseignant qui ne savait pas que dire à l'autre. Mais, tout doucement, la vie revient à une version de normalité. Le 30 novembre 2015, 17 jours après ce qui avait été l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire de la France, j'ai monté un vol à moitié vide à destination de Paris. Je suis allée avec une délégation Yukon à la COP21 pour parler des changements climatiques, de l'environnement, de la durabilité et de l'avenir. Je suis partie pour Paris parce que c'est ma version de normal. Parce que je ne peux plus suivre les bombardements, les fusillades et les menaces. parce que l'attaque du Parlement de Londres et l'attaque du métro de Moscou et les bombardements dans deux églises en Égypte et l'attentat aux Champs-Élysées sont arrivés ce mois-ci. Je suis partie parce que je refuse d'être terrorisée, parce que dès que nous cessons de vivre, ils, l'ennemi obscur et néfaste, ils gagnent.
Voilà ce qui doit être notre réponse. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons, car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France.
Peut-être qu'il n'est pas possible de suffisamment diriger la terreur et l'horreur. Peut-être que ça ne fait qu'une partie de la condition humaine, où il se passe des choses épouvantables et les gens continuent de vivre malgré tout. Je ne sais pas ce qui va passer demain, mais je ne veux pas regretter de ne pas avoir vécu.